Effectivement, donc je suis pédopsychiatre, je dirige un centre de référence, un service de neuropsychiatrie de l'enfant. Alors on verra tout à l'heure pourquoi neuropsychiatrie, qui est un centre de référence pour les troubles d'apprentissage, comme il y en a une quarantaine en France, dans les centres universitaires, où donc je reçois des enfants chaque semaine. J'en reçois, il y a 22 lits, je reçois une quinzaine d'enfants en grande difficulté scolaire, et pour lequel, malgré une prise en charge en logopédie, en ergothérapie, à l'école, eh bien, on est en difficulté. Il a 4 ans, il ne parle toujours pas. Il a 8 ans, il ne rentre pas dans la lecture. Et il a 15 ans, il est scotché à ses jeux vidéo, à Call of Duty, où j'étais à 4, et on dit, où j'étais à 5, et on dit qu'il n'est pas motivé. Et notre mission consiste à essayer de comprendre pourquoi. Et parce que j'ai un adage qui est de dire que l'échec scolaire, ce n'est pas une fatalité. Et que tous les enfants, quand je les vois dans le secret de la consultation, ça fait quand même plus de 30 ans que je suis pédopsychiatre, et bien quand je leur dis, même l'ado qui veut rien foutre, vous le connaissez celui-là, celui qu'on a à la maison, moi j'en ai 4 aussi, hein, donc j'ai un laboratoire à la maison, et je fais pas le malin parce qu'ils sont pas plus faciles que les autres, même un peu plus difficiles. Bref, et quand on leur dit à tous ces ados qui soi-disant n'apprennent pas, sont en échec, risquent d'être virés, mais si tu avais une baguette magique et que tu pouvais changer quelque chose dans ta vie, ils veulent tous être bon élèves. C'est-à-dire que même s'ils font les malins, même s'ils disent qu'ils ne travaillent pas, il y a un message très important à retenir, c'est que je ne connais pas un enfant qui n'aimerait pas réussir à l'école et qui n'aimerait pas avoir de bons résultats. Sauf que, actuellement, les adolescents et les préadolescents ont trouvé un truc, ça ne se fait pas de montrer qu'on a un handicap. Et quand ils ont quelque chose de différent qui peut être le haut potentiel, comme on va le voir, mais on parlera aussi de la dyslexie, des enfants hyperactifs, etc. Quand ils ont quelque chose de différent, vous savez ce qu'ils font, les garçons en particulier, moins les filles, on verra pourquoi, eh bien, ils s'arrêtent de travailler pour attribuer leur échec, non pas à un éventuel handicap, parce que ça ne fait pas genre, comme ils disent, mais attribuer leur échec au fait qu'ils ne travaillent pas. Et donc, du coup, ils sont pris dans un cercle vicieux incroyable. Et tant qu'il n'y a pas quelqu'un, en général, je conseille qu'on rencontre d'abord le médecin scolaire, le médecin de famille, qui va aller gratter un peu de ça pour savoir si on n'est pas passé à côté d'un haut potentiel ou d'un enfant hyperactif avec un déficit d'attention ou d'un enfant dyslexique. Donc, je crois qu'il y a un message important à retenir, c'est qu'il n'y a pas d'enfant qui soit content d'être en échec scolaire et que c'est très important pour nous d'aller voir un peu ce qui se passe. Alors, le fil rouge de ce que je vais vous dire, parce que c'est quand même une de mes spécialités, c'est l'enfant à haut potentiel. Et d'ailleurs, l'enfant hyperactif, l'enfant qu'on appelle TDAH, je vous parlerai de ce terme-là, l'enfant qui a un trouble d'attention. Donc, le fil rouge, ce sera les enfants à haut potentiel. J'ai un peu changé le titre. On avait dit de faire haut potentiel et trouble associé, mais j'aime pas trop le mot trouble. Vous verrez que j'ai une espèce d'optimisme maladif et j'essaie toujours de voir le bon côté des choses. Et on verra qu'un enfant qui soit haut potentiel ou dyslexique ou avec un déficit d'attention hyperactif, j'essaie toujours de lui montrer le bon côté de son profil. Et comment il va pouvoir s'en servir? On verra tout à l'heure que les enfants dyslexiques, ils ont plein d'avantages. Mais sauf qu'à l'école, on voit que les inconvénients. Un enfant hyperactif, il a plein de compétences aussi. Mais à l'école, on voit que les inconvénients. Et les enfants à haut potentiel, ça peut arriver aussi qu'on voit les inconvénients. Donc j'ai appelé ça haut potentiel et compagnie. C'est-à-dire qu'on a le haut potentiel, mais on n'a parfois pas que le haut potentiel. Et on va le voir, c'est le fil rouge aussi. Le haut potentiel, souvent, il a masqué autre chose. Et c'est sur les 15 enfants qui rentrent chaque semaine, vous verrez des petits bouts de films de mon service tout à l'heure, sur les 15 enfants qui rentrent chaque semaine, il y en a au moins la moitié qui sortent avec un diagnostic de haut potentiel et compagnie, c'est-à-dire haut potentiel et dyslexique, haut potentiel et dyscalculique, haut potentiel et déficit d'attention, sauf que le haut potentiel avait masqué le trouble d'attention ou la dyslexie. Et la dyslexie et le trouble d'attention avaient abrasé l'impression d'intelligence. Et les enseignants disaient, mais on voit bien qu'il est intelligent, comme les autres, au moins comme les autres. Et s'il n'a pas des bons résultats, c'est qu'il ne donne pas le maximum. Et c'est vachement démotivant pour un enfant. Alors, je vais commencer par quelques messages clés. Là, j'ai oublié d'appuyer sur mon bouton. Ce n'est pas grave, je déborderai d'un peu de quelques minutes. Voilà, c'est. Et moi, j'ai un TDAH, j'ai un trouble d'attention et j'ai une dyspraxie. Donc, je suis obligé d'avoir tout le temps des timers qui me... Enfin, les timers, il faut les mettre en route aussi. Hein. Si vous oubliez, ce n'est pas bon. Alors, quelques messages clés, et je vous rappelle que le fil rouge, ça va être les enfants à haut potentiel. Premièrement, les enfants à haut potentiel peuvent échouer à l'école. J'étais très content d'être accueilli dans une école ici cet après-midi, et les enseignants commencent à avoir cette notion-là. L'enfant à haut potentiel, ce n'est pas uniquement celui qui est brillant et qui est brillant de partout. On peut être très bien équipé intellectuellement et échouer à l'école. Le haut potentiel, on vient de le voir, masque les troubles cognitifs. Pendant très longtemps et pendant trop longtemps, chez tous les enfants, mais en particulier chez les filles à haut potentiel. C'est le troisième take-home message, c'est que les filles, en Occident, elles ont tendance à masquer leurs différences. Elles ont tellement vu leur modèle, leur maman qui s'applique, qui se plaint pas, qui essaye de faire comme il faut faire, que ces filles-là, qu'elles soient avec une hyperactivité ou un déficit d'attention, avec une dyslexie ou un haut potentiel, elle l'internalise, elle le masque pendant très longtemps, là où le petit garçon, et c'est sa chance, quand il a une différence, il l'explose. Donc on le repère plus tôt. Et le médecin scolaire, le psychologue scolaire, les enseignants ont alerté tout le monde. Donc retenons le troisième message, que les filles internalisent leurs particularités et qu'on en voit trop souvent arriver à 14-15 ans, au bord de la crise de nerfs, elles prennent des consultations en urgence dans la mesure où elles ne comprennent plus pourquoi. Alors ça marchait jusqu'à maintenant, et là ça ne marche plus. Quand vous avez pu compenser pendant quelques années vos difficultés en lecture, en calcul, sur le plan de l'attention, parce que vous êtes très intelligent, et qu'au moment où il faut appuyer, parce que vous arrivez à la fin du collège, début du lycée ou du gymnase, et que vous n'y arrivez pas, là c'est très compliqué pour elles. Et puis le dernier take-home message, c'était pas de moi, c'est de Carl Rogers qui dit ce qu'un être humain est capable de faire, il doit arriver à le faire. Ils savent bien, ces enfants, qu'ils ont des compétences au départ. Et ce qui est horrible pour eux, c'est à un moment donné de ne pas pouvoir les utiliser, ces compétences-là. Et ceux que je vois qui sont vraiment déprimés, parce qu'on verra qu'il y a un véritable effet domino, hein, c'est-à-dire que j'ai un profil, imaginez les dominos qui tombent les uns après les autres. J'ai un profil neurologique qui fait que je ne peux pas lire comme les autres, que je ne peux pas être attentif comme les autres, que je n'ai pas la même méthode que les autres, comme les enfants à haut potentiel. Et le domino neurologique, puisque c'est dans la tête que ça se passe, fait tomber le domino réussite scolaire, qui fait tomber le domino ambiance familiale, qui fait tomber le domino estime de soi. Et c'est ballot, parce que si le premier domino n'était pas tombé, les autres ne seraient pas tombés. Donc notre mission, c'est d'aller comprendre comment on peut éviter que quelque chose d'évitable, au départ, entraîne une espèce de spirale infernale qui conduit à l'échec scolaire, malheureusement. Alors, je donne des exemples. De plus en plus, il y a quand même des enseignants qui comprennent tout ça. Alors ça, c'est une maman qui m'a envoyé ça très gentiment. C'est à Genève, un petit précoce, quatrième primaire. Là, je crois qu'il avait un an ou deux ans d'avance. Bon, bref. Et il est tombé sur une enseignante pleine d'idées, pleine d'initiatives, qui se dit, les enfants, il faut leur faire des choses un peu créatives. Et elle lui propose ça. Tu es un extraterrestre, tu as été envoyé sur la planète Terre en éclaireur pour dire ce que tu vois. Maintenant, tu es de retour sur ta planète et en 250 mots, tu nous racontes. C'est vachement astucieux, ça. Hein. C'est vraiment ce qu'on prône et ce qu'on prône aux enseignants pour essayer de créer, de faire mettre en valeur l'imagination de l'enfant. Sauf qu'elle avait oublié qu'il était à haut potentiel, donc 250 mots, c'est beaucoup, hein, quand vous avez 8 ans. Et puis, elle avait oublié qu'à haut potentiel, ils sont vachement axés sur les choses justes. Et regardez ce qu'il lui répond. Est-ce qu'il aurait pu être pris pour de l'insolence? C'est intéressant, votre truc. C'est gentil déjà, hein, de dire ça. C'est intéressant, votre truc, mais je ne peux pas répondre. Je ne sais pas où est la planète de ton alien, si elle est loin, ni la vitesse de son vaisseau. Il est peut-être venu au temps des dinosaures ou des homo sapiens. C'est quand même pas pareil. Hein. Il ne va pas avoir les mêmes choses. Donc, problème. Alors, au passage, quand même, un petit bilan logopédique et un petit bilan ergothérapique pour la route, hein, par rapport au R qui n'est pas tout à fait dans le bon sens. Mais voilà, ça, c'est typique des réponses des enfants à haut potentiel. D'abord, ils n'aiment pas trop l'écrit. Ils sont vraiment très bons à l'oral et bien moins bons à l'écrit. Et puis ensuite, eh bien, quand on leur pose une question, il faut que ce soit précis. Si tu es tombé sur une enseignante, malheureusement, pas sensibilisée à ce type de profil, eh bien, ça aurait pu très mal se passer et être vécu comme de l'insolence, de l'arrogance. Là, il est tombé sur une enseignante super, comme il y en a de plus en plus, qui s'était informée et qui lui a répondu avec le même ton. C'est ça qui est important. Et ça sera un autre message clé de notre soirée, c'est qu'il faut les comprendre, ces enfants. Bien entendu, ils resteront toujours particuliers, 10, au potentiel, tout ce que vous voulez. Mais une fois qu'ils sont compris, ça change tout. Et elle lui répond simplement ça. Je te prie d'excuser mon manque de précision. Elle aurait pu faire un smiley derrière, hein, pour montrer qu'elle avait compris que c'était drôle. Mais la date de son séjour sur Terre est le 1er octobre 2010 à Genève. Il a fait le voyage aller-retour dans la journée. Et maintenant, on peut y aller. Eh bien, rien que des petits messages comme ça qu'on fait passer aux enseignants, en disant que ça, c'est une réponse, c'est une situation qui ouvre le dialogue. Alors que n'importe quelle autre réponse par rapport à ça de mettre zéro, de déchirer, etc. Ça ferme. Et c'est des choses qui sont toutes simples, mais maintenant, elle lui dit, maintenant, il va falloir quand même qu'on avance. Alors, je vous en montrerai d'autres par la suite. Donc, on va voir comment l'enfant à haut potentiel à l'école, c'est pour ça que je vous ai mis un iceberg au début, il a des points forts et des points faibles. Il y a ce qu'on voit à l'extérieur, qui est la partie émergée, et puis il y a aussi ce qu'on ne voit pas, la partie immergée. Et c'est de celle-là dont on va parler, parce que c'est celle-là qui va conditionner quand même pas mal de choses dans le mouvement global, dans son évolution. Dans l'iceberg, c'est quand même la partie qui est dessous, qui mobilise l'ensemble de l'iceberg, et ce n'est pas uniquement ce qu'on voit. Alors, quelques brèves de consultes des enfants que je reçois tous les jours. Donc, je vous ai dit qu'il y en avait une quinzaine par semaine qui rentraient dans mon service pour l'évaluation. Et puis, en consultation, j'en vois une dizaine par jour. Il n'a pas de copains. On ne va pas aider au potentiel dans un premier temps. C'est quand même un truc qui est typique. Elle s'ennuie à l'école. Attention à ça pour les enseignants. Je l'ai dit cet après-midi. Une fillette qui ne veut pas aller à l'école, alors qu'elle avait envie d'y aller au départ, c'est qu'elle a peur de s'y ennuyer. Et si elle a peur de s'y ennuyer, c'est que peut-être on lui fait faire des choses qui ne l'intéressent pas. Sauf que, par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure, au lieu de se plaindre en disant « c'est nul ce qu'on fait à l'école », elle le garde pour elle, mais elle manifeste comme si elle avait un évitement scolaire, comme si elle ne voulait pas y aller, comme si elle était phobique de l'école, alors qu'en fait, elle s'ennuie. La maîtresse ne le comprend pas, il ne prend aucune note, compliqué les garçons avec l'écriture, et surtout les préadolescents et les adolescents. Et le problème, c'est qu'à l'école, on est évalué sur l'écrit. Donc quand vous ne savez pas tenir votre crayon, vous n'aimez pas écrire, ce n'est pas bon. Qu'est-ce que j'entends aussi? Ah oui, ça, je suis moins fier. J'avais un tic. Alors, les enfants à haut potentiel, ils me font vachement progresser en 30 ans. Enfin, tous les enfants, d'une manière générale. Mais la lucidité des enfants à haut potentiel, c'est énorme. Et j'avais un tic, c'est que quand j'étais un peu en retard pour calmer le jeu, je mettais la main sur la tête de l'enfant et je lui disais, excuse-moi, je vais te voir deux minutes, je suis un peu en retard, je te vois dans 10 minutes. Et Jade, elle avait 9 ans, je lui mets la main sur la tête comme ça, et c'était une enfant à haut potentiel, c'est vieux cette histoire, je raconte dans mon premier bouquin. Elle lève les yeux au ciel, à 9 ans, comme les ados. Vous avez remarqué que les enfants à haut potentiel, ils font comme les ados avant d'être ados. Ils sont ados avant la puberté. C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas la routine, ils vous font la gueule dès le matin, vous n'avez rien fait. Au petit déjeuner, dans la voiture, ils ne vous décrochent pas un mot et ils résistent là où vous insistez. Ça s'appelle l'adolescence, c'est normal. C'est normal à 15 ans, ce n'est pas normal à 8 ans. Bon, en tout cas, je reviens à Jade, je lui mets gentiment la main sur la tête, c'est une grosse ânerie. Elle lève les yeux au ciel, elle enlève ma main et elle fait « le geste courbe tous les médecins ». Bon. Ok. Et je me dis, ok, si elle est capable de faire ça avec moi, elle le fera avec tous les adultes, en fait. Mais elle avait raison, d'ailleurs, je ne le fais plus depuis. Enfin, j'évite. Sauf quand je suis fatigué. Alors, je peux vous en raconter des tonnes. Tout ça, vous le verrez dans un prochain livre sur les enfants précoces. Mais tous les jours, ils me remettent en place et ils nous apprennent vachement l'humilité, ces enfants-là. Parce que ils disent ce qu'ils pensent et ils pensent ce qu'ils disent, en général. Parfois, pour ça qu'ils sont un peu déçus aussi quand ils rencontrent pas ça chez les adultes. La dernière en date, c'était après mon dernier bouquin, j'avais fait quelques émissions de télé, et une qui voulait absolument pas venir me voir, mais les parents l'avaient amenée parce qu'il y avait le feu, parce qu'elle était virée à nouveau de l'école. Quand elle me regarde, elle a 9 ans, elle me dit « c'est vraiment mieux à la télé qu'en vrai ». Donc c'est pareil, si on comprend pas que c'est une façon pour elle de gérer son anxiété de se retrouver chez le médecin, et que c'est une défense, parce que les enfants au potentiel mettent en place comme ça des défenses, et qu'on répond du tac au tac, et je lui renvoie un scud en disant écoute, ma grande, tu vas te faire soigner ailleurs parce que, puisque c'est comme ça, etc. Si on ne peut pas aller ailleurs, il n'y a plus de place. On a des délais, tout, ce n'est pas possible. Et j'ai juste répondu, je ne sais pas ce que j'avais ce jour-là, j'étais touché par la grâce. J'ai juste répondu, moi aussi, à ton âge, j'étais inquiet quand j'allais voir un médecin que je ne connaissais pas. Et là, contre toute attente, elle a souri. C'est-à-dire qu'elle a compris que j'avais compris. Et là, le dialogue a pu s'enclencher. Et je me rappellerai tout le temps quand elle est partie, elle qui faisait la tête au départ, quand elle est partie, elle a dit à sa maman « C'est vraiment trop de la balle, un pédopsychiatre. C'est comme un carnet secret, mais ça vous répond en plus. » Donc elle s'était emparée de cet espace de consultation pour avancer. Bon bref, je peux vous en raconter des tonnes. C'est quand même des enfants un peu compliqués, des enfants au potentiel. Je vous expliquerai après pourquoi ils sont compliqués, mais en tout cas, ils le sont. Il faut constater ça, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes réflexes et le même fonctionnement que les autres. Alors, ils ont un contentieux avec l'école. Pas tous, on verra, mais au moins la moitié ont des difficultés avec l'école. On verra que l'autre moitié va bien. Hugo, 8 ans. Lui, il est énorme. Ça date de 2014. Précoce et dyspraxique. Dyspraxique, ça veut dire maladroit. C'est-à-dire qu'ils sont très intelligent quand il s'agit d'utiliser le verbal, mais dès qu'il faut tirer un trait ou découper, là, il n'y a plus personne. Hein. Et je ne vous parle pas des lacets, des machins, etc. Bon, ouais. Et à un moment donné, je commence la consulte, peut-être que les parents me disent ça ne va pas à l'école, alors qu'il est tellement vif à la maison, il est tellement intéressé partout, à l'école, ça ne va pas. Donc, je vois mon petit Hugo, les yeux qui pétillent, comme on les imagine. Et à un moment donné, il me dit, je peux vous poser une question, doc? Je dis, ouais. Franchement, les yeux dans les yeux, vous avez quel âge? Je dis, bah, je donne mon âge, déjà. Et il me dit, alors, ok, franchement, les compas, vous en servez souvent, vous? Je lui dis, ben, non. Et il me dit, ça vous ennuierait de le dire à ma maîtresse que ce n'est pas urgent, que j'arrive à faire des ronds, normalement? Et effectivement, c'est un des conseils qu'on donne aux enseignantes d'enfants dyspraxiques, c'est que les rapporteurs, les règles, les ciseaux et les compas, ce n'est pas fondamental. Hein. Et que c'est dommage de l'évaluer là-dessus. Je trouve ça très bon. J'en ai un autre que je n'ai pas mis là, mais je vais vous le dire. Jusqu'à 6 ans, j'imagine que c'est pareil ici, jusqu'à 6 ans en France, on est en classe maternelle, donc on peut se lever. C'est-à-dire que vous allez rentrer dans la classe, il y a des petits ateliers dans un coin, ils peuvent aller écouter de la musique, dans l'autre il y a une banquette, etc. On bouge. Et puis à 6 ans, ils rentrent en première année de primaire, en CP, cours préparatoire, et là, il faut rester assis. Et c'est là qu'on voit le tournant et qu'on fait le diagnostic des enfants qui ont une hyperactivité. Que l'hyperactivité en maternelle, elle est tolérable puisqu'il peut bouger. En général, les maîtresses, elles enlèvent la chaise. Ça ne sert à rien, la chaise, sauf à faire du bruit, ou à monter dessus, ou à la faire tomber. Bon, bref. Et le gamin, pareil, comme Hugo, sauf qu'il a le gamin, il avait 6 ans, il rentre en. Et après 15, je vois après 15 jours de première année de primaire, et il me dit, docteur, ça ne va pas être possible. Rester assis toute la journée, vous pouvez prévenir mes parents, mais ça ne va pas être possible. Hein. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, je prenais du plaisir à aller à l'école. Il attendait d'arriver à la grande école pour apprendre à lire. Mais là, il a compris que ça ne pouvait pas fonctionner. Donc, effectivement, j'ai transmis, je me suis fait son ambassadeur auprès de la maîtresse. Cassandre, ça, c'est moins joyeux. Elle me dit, l'école réunit tous les problèmes. Quel problème, Cassandre? Eh bien, j'aime pas apprendre, j'y arrive pas. Et en plus, on verra les problèmes sociaux qu'ont tes enfants-là. Cassandre, elle était précoce et avec un déficit d'attention. Ninon. Alors, Ninon, pareil. Quand un enfant nous dit, je ne comprends pas, l'école, c'est trop dur et trop facile à la fois. Là, ça sent le profil avec des points très forts, comme je vous montrerai les QI tout à l'heure, et des points nettement moins forts. C'est le profil enfant précoce et enfant 10. C'est vraiment ce mot-là, je l'entends tout le temps. Et quand on ne l'entend pas, ça vaut la peine de demander à notre enfant. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu as l'impression que l'école, c'est à la fois trop dur et trop facile? Et Niels, 15 ans, je dis, alors dès que je ne sais pas un truc, je demande aux enfants au potentiel. Je leur dis, tu peux m'expliquer ça? Et ils ont toujours une réponse à tout. Et je dis, pourquoi l'école, vous n'aimez pas l'école? Ils disent, ce n'est pas le contenu des cours qui est nul, c'est la façon dont on l'enseigne. Et je crois que ça, c'est vraiment un message très important à diffuser à l'éducation nationale. C'est-à-dire que le contenu, il est vraiment intéressant, mais il faut trouver des stratégies. On verra tout à l'heure, modifier les supports, mais rendre l'école fun, rendre l'école intéressante. Alors en fait, j'aime bien dire en fait parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous avez des enfants à haut potentiel autour de vous, mais dès que vous posez la question à un gamin de moins de 6 ans, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et qu'au lieu de vous dire du tac au tac, comme disent les enfants de moins de 6 ans, pompiers, policiers, il s'arrête puis il vous dit, en fait, c'est bon, pas besoin de faire de QI, il l'est à haut potentiel. C'est-à-dire que dire en fait, d'ailleurs beaucoup de parents me disent, mais à l'école on l'appelait monsieur, en fait. Hein. Dire en fait, c'est une façon de contrôler, de prendre le temps, et de réfléchir à ce qu'il va dire. Et on verra que la ligne rouge des enfants au potentiel, c'est le contrôle et la maîtrise de tout. Donc si un enfant de moins de 6 ans vous dit, en fait, dès que vous lui posez une question, c'est bon, et vous faites l'économie d'un test de QI, surveillez les autres points que je vais vous dire après pour voir s'il les a. Alors en fait, c'est des enfants différents, des enfants au potentiel. C'est-à-dire qu'ils sont ni mieux ni moins bien que les autres, ils sont juste différents, et ils ont toujours existé. Parce qu'on n'arrête pas de nous dire... À certains d'entre nous, Jeanne Siofachin et moi, oh là là, vous avez lancé ça, mais c'est une mode, ça n'existe pas. Enfin bref, pas du tout. Hein, il y a quelques temps quand même, déjà quelqu'un avait remarqué ça. Il y a des enfants, il y a des écoliers, c'est bizarre. Ils ne sont pas bien bons à l'école pour une raison qui est visiblement paradoxale. Ils sont trop intelligents. Ça, ce n'est pas il y a 20 ans qu'on a dit ça. Il racontait ce type, il ne travaille que par caprice, ils apprennent au dernier moment et on finit toujours par leur pardonner. On doit leur faire des classes de surnormaux. Et ça, quelqu'un sait qui sait qui a écrit ça? C'est le premier à avoir fait des tests psychométriques. Il s'appelait Alfred Hitchcock? Non. Binet, 1911. Hein? Donc c'est vrai que quand on nous dit c'est une mode, non, il faut dire non. Hein, il y a très très longtemps qu'on a envisagé, hein, il avait fait le test de Binet-Simon, c'est le premier test qui a été fait pour tester l'intelligence. Alors, quelques définitions sur les enfants à haut potentiel. Ils ne sont pas faciles à définir. Hein. Et on en est resté, d'ailleurs en France, l'éducation nationale parle encore de EIP. Alors on disait précoce, ça ne va pas. Surdoué, c'est un terme qui ne passe pas. EIP, enfant intellectuellement précoce, ce n'est pas bon, parce que ça voudrait dire que c'est comme précocité au niveau de la taille. Il est plus grand que les autres, et puis au fil du temps, les autres le rattrapent. Jamais, on ne rattrape pas, on reste précoce, c'est-à-dire à haut potentiel toute sa vie. Et je crois que la définition que j'aime le mieux, c'est celle d'Hélène Wiener qui dit « Il y a une précocité intellectuelle, c'est vrai, on va l'avoir sur le QI, mais il y a aussi une insistance à se débrouiller seul. C'est des enfants qui veulent tout faire tout seul, très tôt. Hein, les parents sont en difficulté avec ça. Ils veulent s'habiller seuls, choisir leurs habits. Si vous en avez chez vous, vous avez remarqué comme ils choisissent les habits où il n'y a pas d'étiquette. Ils ne supportent pas les étiquettes. Alors, je ne sais pas si c'est une métaphore en disant « je ne veux pas être étiqueté », mais en tout cas, tout ce qui gratte, tout ce qui touche, tout ce qu'ils n'aiment pas. Bon. Et ils ont surtout la rage de maîtriser. Et je crois que ça, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est qu'ils ont, dans tous les domaines, mais surtout dans ce qui les intéresse, ils veulent aller à fond. Quand ils s'intéressent à l'astronomie, ils veulent tout comprendre, l'astrophysique. Quand ils s'intéressent aux dinosaures, ils veulent être paléontologues. C'est des gamins petits, hein, ils veulent être paléontologues, ils veulent être astrophysiciens, ils veulent comprendre. Alors je me suis longtemps demandé pourquoi. Puis un jour, il y en a qui m'ont expliqué. Ils veulent comprendre les limites de l'espace et les limites de l'espèce. D'où on vient, où on va. C'est pour ça qu'ils veulent comprendre les anciennes civilisations et puis savoir comment ça se passe, les planètes. Rage de maîtriser, hein. J'ai appelé ça, j'ai développé le syndrome de Kirikou. Vous connaissez Kirikou ? C'est une belle métaphore de précoce. Hein. Il est trop chou. Et il est tout petit, tout nu, il se balade, et il veut tout faire le bien tout le temps. Et il veut tout le temps aider les autres. Et il ne voit pas le mal. Et même la sorcière, comment elle s'appelle la sorcière ? Caraba. Eh bien, quand il va voir la sorcière, qui veut beaucoup de mal à tout le monde, la première chose qu'il lui dit, c'est « Pourquoi tu es méchante ?» Et il aimerait bien essayer de comprendre. Hein. Donc, Kirikou est très malin hein, et il veut tout maîtriser. Donc, EIP, ça n'allait pas, intellectuellement précoce, parce que ça ne permettait pas de dire que c'est un état qui dure. Ce n'est pas quelque chose qui... ça ne passe pas, la précocité. Donc, les termes qu'on aime le mieux, c'est les termes américains. « Gifted », ça veut dire « doué ». Et comme les Américains disaient « high ability », on l'a transformé en « haut potentiel », terme « HP ». Donc c'est le terme qui maintenant est le plus important et à mon avis représente le mieux ce que sont ces enfants-là. Ils ont un potentiel haut, ils s'en serviront ou pas, en fonction de la façon dont l'entourage, dont l'environnement, dont l'école leur a perçu. Vous pensez à quoi, HP ? Eh ouais. Plutôt que Hewlett-Packard, la plus belle métaphore c'est Harry Potter. Et je pense que, je ne sais pas si elle a pensé à ça quand elle a écrit Harry Potter, mais Harry Potter, il n'était pas bien tant qu'on n'a pas reconnu sa différence. Rappelez-vous, dans l'épisode 1, il lui arrivait que des catastrophes, que ce soit les adultes ou les enfants, eh bien, on ne le reconnaissait pas, on lui piquait ses lettres. Il était vraiment rejeté par tout le monde. Et il était bien quand il a trouvé quoi ? L'école inclusive, l'école qu'on cherche tous, l'école qui accueille tout le monde avec ses différences, s'appelle Poudlard. Tellement vrai que les précoces, ils appellent mon service Poudlard. Ils s'envoient je les vois sur Facebook, de temps en temps, ils disent « Quand est-ce qu'on retourne à Poudlard ?» Donc je dis « Non, c'est pas Poudlard, c'est un service hospitalier, excusez-moi. » d'être mignon, mais... Bon, bref. Notre mission, celle que je vais partager demain aussi avec les enseignants, c'est de trouver la voie 9¾. Vous vous souvenez, quand à un moment donné, ils cherchent cette voie qui n'existe pas entre la 9e et la 10e, la voie qui mène à l'école inclusive. C'est la voie qui mène à l'endroit où eh bien, on est tous reconnus dans notre différence. Une belle photo qui m'a transmise la présidente de la ZEP, Roberta Poulin, c'est ça aussi. Le train pour un monde meilleur. C'est quand même un discours que j'entends souvent hein, dans la bouche des enfants au potentiel. Ils sont quand même très idéalistes, trop idéalistes. Et notre mission, c'est d'éviter qu'ils sombrent trop vite dans le désenchantement. Et on est là pour ça. Ça va de mieux en mieux à partir du moment où on les a repérés. Un autre terme, vous savez, on dit le don. Je ne sais pas si vous connaissez la définition du don dans le dictionnaire, mais le don, c'est quelque chose qu'on a obtenu gratuitement, sans rien faire pour l'acquérir. Et donc, ça explique pourquoi les enfants au potentiel, Kirikou en tête, ils ont envie d'aider tout le monde. C'est-à-dire que j'ai eu quelque chose, on m'a donné quelque chose de gratuitement, de super, et il faut que j'en fasse quelque chose. Et quand ils sont en échec, souvent leurs parents me disent ça, en me disant, mais moi je me reconnais dans mon fils. Beaucoup de parents ont fait le diagnostic de précocité, d'ailleurs les parents aussi qui ont un déficit d'attention font le diagnostic pour eux, rétrospectivement, en voyant le parcours de leur fils et en leur, quand ils en m'entendent leur expliquer. Mais ils me disent, mais voilà, moi j'avais ces compétences-là et j'en ai rien fait. Je n'ai pas pu empêcher qu'il y ait des problèmes dans la famille, je n'ai pas pu réussir mes études. Donc ce don, cette qualité-là, il faut en faire quelque chose. Une autre métaphore que j'aime bien pour les précoces, c'est les X-Men. Parce que vous connaissez les X-Men, c'est les mutants. Mutants, c'est pareil, hein, ils sont différents des autres, ils sont persécutés par les autres, on ne sait pas bien pourquoi. Et le chef des X-Men, enfin, c'est Wolverine. Et Wolverine, à un moment donné, ça... bon, c'est les films que je vois dans l'avion, mais j'aime bien les voir, hein, quand même. Et Wolverine, sa copine, elle lui dit, mais pourquoi tu te plains? Parce que Wolverine, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais il porte toute la misère du monde sur ses épaules. On a l'impression que dès qu'il y a un truc, une catastrophe, c'est pour lui. Et elle dit, pourquoi tu te plains? T'es grand, t'es beau, t'es fort, t'es invincible, t'as un don. Qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui répond, non, ce n'est pas un don que j'ai. Et ça, il y a beaucoup de précoces qui pourraient me le dire. Ce n'est pas un don que j'ai. Parce que normalement, un don, ça se refuse. Combien d'enfants à haut potentiel m'ont dit ça? On dit, mais moi, je n'ai pas demandé à avoir cette différence-là. Comme d'ailleurs les enfants dyslexiques ou les enfants TDAH. C'est-à-dire que vous me dites que c'est un don, mais c'est quelque chose qui m'handicape. Et je n'ai rien fait pour l'obtenir et je n'ai pas demandé à l'avoir. Donc, il y en a plein qui voudraient bien, à un moment donné, être comme les autres. À nous de leur expliquer que cette différence-là, c'est un atout et qu'on va leur apprendre à s'en servir, comme toutes les différences d'ailleurs. Alors, quelques mots, il y a des enfants qui existent. Hein, les statistiques, maintenant, on ne peut plus se laisser dire que ça n'existe pas. 3% des enfants. En France, il y en a 300 000. Il y en a un à deux par classe. C'est vachement important de dire il y en a un à deux par classe. Parce que si notre enfant, si mon patient, si votre élève, si votre jeune patient que vous avez en rééducation vous dit « mais je suis tout seul dans ma classe, on ne me comprend pas », la première chose à lui dire, c'est « non, tu n'es pas tout seul, il y en a un ou une autre, plutôt une autre, mais tu ne l'as pas vu puisqu'elle masque l'affaire, cherche-la. » Ah bon ? Et je donne des pistes pour la chercher. Et comment elle est ? Ben, je dis « voilà, tu dois trouver une qui est sensible. Quand tu la regardes, il y a quelque chose qui se passe dans ses yeux, elle est dans l'empathie, elle veut toujours rendre service aux autres. Ah ouais, d'accord, je pense que c'est elle. » Et donc, il va trouver la piste, il va la retrouver, puis il vient me voir quelques temps après en me disant « ben ouais, vous aviez raison. » Et il va s'en servir de poisson pilote, c'est le conseil que je lui donne. Elle va t'aider à aller vers les autres. Et là, ça va changer quand même beaucoup de choses. Alors, souvent, enfant unique ou aîné, mais il y en a souvent plusieurs par famille, mais plus s'il est unique ou aîné, on a plus stimulé, comme on stimule plus les aînés. Donc forcément, eh bien, ça se voit plus chez les aînés. Et puis deux garçons pour une fille, il y a autant de filles que de garçons, mais par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure, les filles, on les voit moins, hein, puisqu'elles le masquent. Alors attention, la majorité des précoces vont bien. Même très bien. Mais ils ont des particularités qu'il faut repérer. Et si on a l'idée qu'on a peut-être un enfant précoce autour de nous, il faut l'aider à repérer rapidement, pas attendre qu'il soit pénalisé par ça. Alors les forces, on les connaît. Hein. Ils se développent plus vite que les autres. Un très bon signe qu'on recherche, nous les médecins, quand on fait l'historique d'un enfant qui est en difficulté scolaire. Comment vous l'avez trouvé, bébé ? Mais que vous dites, vous voulez dire quoi, docteur, bébé ? Ben, quand il est né. Alors là, docteur, ça j'entends tout le temps. Quand il est né ou quand elle est née, mais dès qu'elle est sortie, elle me fixait. Normalement, la fixation du regard, c'est à la fin du premier mois. Si le bébé ne fixe pas, au deuxième mois, on va voir bébé vision pour voir s'il n'a pas un problème de vision. Là, c'est la fin du premier mois, normalement. Et lui, c'est dès la naissance. Même une mère qui me dit, mais dans la couveuse, elle me faisait peur. Elle me regardait. Et puis vous savez, comme elle dit, mais j'ai l'impression qu'il me reprochait quelque chose. En plus, il relève la tête, elle se tape la tête contre la couveuse, elle dit « Oula, qu'est-ce que j'ai fait ?» Et bon, ça peut être vécu comme de la réprobation. J'aime bien dire ça d'ailleurs aux parents. Mais comment vous l'avez trouvé, hein ? C'est vraiment intéressant parce que ça permet de voir comment on attendait l'enfant. Les parents qui me disent « Oula, quand je l'ai vue, elle me regardait, puis en plus, elle ressemblait à mon beau-père. Là, je suis parti en hurlant de la salle d'accouchement, c'est mal barré. Hein » bon. Et ensuite, ils vont aller vite dans le développement. Ils vont marcher plus vite, alors que ça ne va pas être des grands sportifs après. Le langage apparaît très tôt, pas toujours, et là encore chez les filles, le langage n'apparaît pas plus tôt, mais les mamans me disent, mais quand elle a parlé, elle avait la syntaxe du jour au lendemain. Comme si elle attendait de savoir parler correctement pour s'exprimer. Il y en a plein aussi qui me disent, elle n'a pas fait le quatre pattes, mais elle attendait de marcher. Ça, c'est la rage de maîtriser. C'est-à-dire que les enfants précoces, ils veulent y arriver tout de suite. Donc tant qu'ils sentent qu'ils ne peuvent pas y arriver, ils ne le font pas. Ils sont intéressés partout, ils sont curieux. Alors c'est pour ça qu'ils sont passionnés par effectivement les civilisations antiques, les dinosaures, etc. Beaucoup d'humour, je vous montrerai des exemples, et c'est l'humour qui va permettre de sauver certaines situations compliquées. Beaucoup d'empathie, on verra ce que c'est, empathie, c'est ils ressentent ce que les autres ressentent. Ça, c'est tellement vrai. Combien d'enfants à haut potentiel disent « mais la maîtresse, elle me dit qu'elle m'aime bien, mais je vois bien que ce n'est pas vrai qu'elle m'aime. » Donc ça sert, il faut être authentique avec un enfant à haut potentiel, parce qu'ils ont des antennes, ils décodent tout ce qui se passe autour, et ils savent très bien si papa est déprimé, si maman est préoccupée, si un copain ne l'aime pas alors qu'il lui dit qu'il l'aime, etc. Cette empathie, eh bien, elle vient du fait qu'ils ont des antennes, ils décodent des choses, ils analysent tout. On verra avec leur pensée en arborescence, ils analysent tout à toute vitesse. Et puis, ils sont hypersensibles à cause de leur avance intellectuelle. Eh bien, ils sentent tellement de choses qu'ils sont plus sensibles. Ils passent souvent pour des bébés. Et souvent, les enseignantes ou les parents me disent « je ne comprends pas, il est immature ». Ils ne sont pas immatures. C'est une fausse immaturité qui est liée au fait que on attend plus de lui ou d'elle. Elle a 4 ans, elle parle comme une enfant de 6 ou 7 ans. Et pourtant, elle est capable de s'effondrer pour une petite chose. Ce n'est pas de l'immaturité, c'est de l'hypersensibilité. Alors, leur faiblesse, ça, c'était leur force. Et leur faiblesse, c'est lié au décalage. Je dirais que s'il y a un maître mot pour les enfants à haut potentiel, c'est le décalage. Et je vous parle de l'enfant à haut potentiel qui n'est pas 10 encore, hein, qui n'est pas autre chose, qui est juste à haut potentiel pur. Si ça existe, mais il y en a au potentiel pur. Mais ils sont décalés. Alors, décalés à la maison, ça commence. Ils sont tellement matures intellectuellement qu'à 3-4 ans, ils argumentent. Et il y a un truc qu'ils ont tous, honnêtement. Si vous en avez à la maison, vous pouvez confirmer. Ils ont du mal à aller se coucher. Et je peux vous dire que ça dure. Hein. Et ça dure longtemps, mais jusqu'à l'âge adulte. Parce qu'aller se coucher, c'est renoncer à la maîtrise. Aller se coucher, c'est la séparation. Aller se coucher, c'est renoncer à faire des choses fun, des choses intéressantes. Si le petit gars, il a les moyens de dire à 5 ans, je ne vais pas aller me coucher parce que... Il y a toujours une bonne raison, hein. Parce que je suis encore à l'horaire d'été et mon rythme circadien, ce n'est pas adapté. Si c'est l'aîné, on ne sait pas faire avec les aînés. Moi, avec mon aîné, je ne savais pas faire. L'aîné, c'est celui qui nous transforme d'adulte en parent. Jusqu'à maintenant, j'étais adulte et puis j'ai fait ce gamin là qui me matait dans la couveuse. Là, déjà, je ne sais pas bien faire. Et en plus, je découvre avec lui ce que c'est qu'être parent. Si c'est l'aîné qui me dit « je ne peux pas aller me coucher parce que voilà, mes rythmes ne se sont pas adaptés et que je ne sais pas faire, parce qu'ils ne sont pas comme que j'ai lu dans les livres de Laurence Pernoud, vous voyez, normalement, c'est tout facile. Hein, ça fait comme ça, on le monte, on l'a eu en kit, on le met en place et tout va bien. Ben, eux, non. Hein, on n'a pas le même mode d'emploi que les autres. Bon, bref. Si c'est l'aîné, ben, on fait une ânerie, on lui dit ben, « ah ouais, rythme, comment tu dis, chérie ? Circadien ? Attends, on va voir sur Google. Puis, vous appelez votre femme ? Viens voir chérie ce qu'il dit le petit. Ah ben oui, il a raison. C'est pas bon. Les pédiatres, ils disent c'est pas bon pour les... Bon ben d'accord, ok. Le gamin, il a gagné. Alors il est ravi. Sauf que s'il y a 4 ans, il se dit, à la maison, c'est moi qui tiens la barre, ben, c'est hyper angoissant. C'est-à-dire que s'il y a 4 ans, ils n'ont pas les moyens de m'aller coucher, qu'est-ce qui va se passer quand j'aurai vraiment besoin d'eux parce que j'ai peur de la maladie, parce qu'il peut m'arriver n'importe quoi, etc. Donc la première chose, mon premier adage, vous voyez, hein, que j'essaye de diffuser, c'est vous avez un enfant à haut potentiel, très bien, on va s'employer à trouver ses bonnes compétences. Vous avez un enfant pas tout à fait comme les autres, mais comme les autres, c'est un enfant. Et plus que les autres, il a besoin d'un cadre et de limites. Et ça, ce n'est pas évident au premier abord. On a l'impression qu'ils sont raisonnables, mais ce n'est pas vrai. Bien sûr qu'ils sont capables de raisonner, mais ce n'est pas être raisonnable. Et au contraire, ils ont besoin qu'à un moment donné, on ne discute pas avec eux et on les rassure. Donc, ok, la réponse pour le petit qui disait « mes rythmes circadiens, vous en faites quoi ?» Bah, tes rythmes circadiens, on verra demain. Là, tu vas vite te coucher, sinon t'en prends une. Merde, c'est filmé. Bah, c'est pas grave. comme c'est rassurant d'avoir des parents qui sont capables de nous limiter. Or, avoir des parents rassurés, c'est rassurant. Avoir des parents inquiets, c'est inquiétant. Donc, c'est vraiment un conseil. Il faut y aller et mettre un cadre et des limites. Et on discutera après. On discutera à froid, mais jamais à chaud. Puis, on va le mettre à l'école, comme ça, ouf, on va pouvoir souffler. Et moi, je conseille qu'on les mette à l'école. D'ailleurs, je suis assez étonné comme quoi ces enfants, ils sont difficiles avec nous, alors qu'on en a un ou deux. Et puis, la maîtresse, elle en a 25, elle arrive à le gérer. Au début. quand il arrive. Il est tout content, il arrive à l'école, il a envie d'apprendre, et puis ça ne dure pas. D'abord, il n'a plus envie d'y aller, parce qu'il n'y a que des bébés, il ne parle pas comme lui, compliqué. Et puis, il est scotché à la maîtresse, il n'aime pas le foot, donc ce n'est pas bon, hein, dans notre société. Ou s'ils aiment le foot, il n'y a qu'un poste qu'ils aiment bien, c'est quoi ? Goal. Bah ouais. Je leur ai demandé aussi, pourquoi vous êtes tous goal ? Les rares précoces que j'ai qui font du foot, ils sont goal, ou éventuellement arrière central. Vous savez pourquoi ? Bah parce qu'il m'a dit, le gamin, il me dit, vous ne savez pas pourquoi ? Je dis, bah non. Il me dit, c'est idiot d'avoir fait toutes ces études, si vous n'êtes pas capable de trouver ça, je dis, bah peut-être. Il me dit, vous ne comprenez pas que goal, c'est le seul endroit où on voit tout ? Et c'est vrai que c'est logique. C'est le seul endroit où ils contrôlent tout ce qui se passe sur le terrain. Donc tous les précoces sont goal. Les hyperactifs, ils sont au milieu du terrain. Parce qu'ils peuvent, ils sont au milieu de terrain, parce qu'ils peuvent aller devant, derrière, sortir, aller faire pipi, aller à la buvette, revenir, etc. Mais ils ne sont pas cantonnés dans un poste. Ils ne sont pas bien dans les cages, trop petits. Hein, ils étouffent. Hein. Et j'ai découvert, il n'y a pas très longtemps, l'année dernière, où étaient les dyspraxiques. Vous savez, les dyspraxiques, c'est ceux qui ont le déficit de la maladresse, et puis qui ne savent pas où est la droite et la gauche. Toujours, tous les dyspraxiques sont ailiers, parce qu'ils peuvent suivre la ligne blanche tout le long. Hein. Donc, ils ont compris qu'il y avait là la ligne, et qu'en suivant la ligne, ils risquaient de ne pas sortir du terrain. Bon, bref. Donc, le foot, c'est déjà un bon outil pour comprendre comment fonctionnent les gosses. Alors, ils sont à l'école, ça ne se passe pas si bien que ça, en fait, hein, pour certains d'entre eux. Parce qu'ils sont décalés, parce qu'ils n'aiment pas les sports courants, alors qu'ils aiment bien les autres sports. Et il faut leur trouver un sport qu'ils aiment bien, vite d'ailleurs, hein, les mettre à l'escalade, à l'escrime, au badminton. Ils ont une façon de parler, comme vous allez voir les deux petits que je vais vous montrer là, où ils parlent un petit peu de façon très précieuse. Et donc, les autres ne les comprennent pas. Ils ont un langage que les autres n'ont pas forcément. Et puis, ils sont souvent, quand ils sont en avance, ils sont plus petits. Alors, ça passe en primaire. Mais quand ils arrivent au collège, c'est souvent compliqué, comme on va le voir avec un petit bout de film. Honnêtement, il y a une période qui est très compliquée pour les enfants à haut potentiel. C'est la deuxième année. En France, c'est la cinquième. Donc, c'est la deuxième année du collège. Première année de collège, ils sont contents. Ils sont sortis de l'école enfantine, ils sont sortis de la primaire, ils peuvent changer de prof, ça passe beaucoup mieux. Deuxième année de collège, c'est compliqué, ils ont fait le tour de la question. Et puis surtout, le décalage en taille commence à se voir. Et les plus grands ne supportent pas ce petit qui sait mieux qu'eux, qui répond mieux qu'eux. Donc ils sont victimes d'incivilité. Et si on ne va pas les chercher, ces incivilités-là, en leur demandant, est-ce qu'il n'y en a pas qui t'embêtent à l'école ? Ils croient que c'est normal. Et là, pour la première fois, ils se détendent. Et vous voyez à quel point l'humour peut sauver les choses, on peut rallumer, comment l'humour peut sauver les choses alors qu'au départ, il était quand même dans une souffrance pas possible. Et c'est ce que j'essaye d'expliquer, qui est important de se rappeler, c'est que cette souffrance-là qu'on a quand on est petit, c'est quand même très compliqué. Et même si après ils vont bien, quand ils sont grands, ils se rappellent toujours de ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, ils se rappellent toujours aussi à quel moment ça s'est amélioré. Combien d'enfants, puisque depuis maintenant que je les suis depuis 30 ans, il y en a plein qui viennent me voir, qui m'amènent leurs enfants, juste comme ça, en prévention, et qui me disent... Je me rappellerai toujours de la première personne qui m'a tendu la main. Ça peut être un enseignant, ça peut être une psychologue, un médecin scolaire. Mais à un moment donné, ces enfants à haut potentiel, ils s'en sortent parce qu'ils ont trouvé un mentor. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé quelqu'un qui leur a fait confiance. Ça peut être un prof principal, ça peut être une maîtresse et qui leur a changé la vie. Mais sinon, la souffrance qu'ils ont eue petit, si elle n'a pas été extériorisée à un moment donné, elle reste comme une cicatrice extrêmement importante. C'est Boris Cyrulnik qui racontait ça dans les vilains petits canards. Hein. Si vous n'avez pas lu ce bouquin, il est remarquable. Et il dit le vilain petit canard, ce n'est pas parce qu'il est devenu cygne que tout est guéri, que tout va bien. Et c'est le souvenir de sa vie de canard risque de peser lourd après dans sa vie. Donc c'est important de leur éviter ça et cette victimisation. Alors surtout qu'ils sont aussi décalés. Alors on l'a vu décalés à la maison, décalés à l'école, décalés aussi dans leurs compétences. Même les enfants précoces sans dyslexie ou sans déficit d'attention, eh bien, ils sont bien meilleurs à l'oral qu'à l'écrit. Ils n'aiment pas le geste graphique, ils sont maladroits. Et puis, bien entendu, ils peuvent coexister aussi d'autres problèmes. On le voit sur les QI. Et si vous avez des enfants qui ont des QI, vos enfants ont un QI, on s'aperçoit que les enfants précoces réussissent beaucoup mieux les épreuves verbales que les épreuves non verbales et qu'ils réussissent surtout les épreuves qui font appel à la pensée qu'on appelle analogique. Similitude, c'est en quoi ça se ressemble. En quoi ça se ressemble le lait et l'eau. Trop facile, c'est des liquides. Okay. En quoi ça ressemble une balle et une roue. Trop facile, c'est rond. Et ils adorent ces épreuves-là parce qu'on ne leur a jamais appris à l'école. Si jamais on te dit en quoi ça se ressemble le lait et l'eau, tu diras bien que c'est des liquides. C'est eux qui font le lien conceptuel, analogique. Hein. Alors après, c'est plus dur. Et les enfants trouvent des trucs assez pertinents, comme en quoi ça se ressemble le coude et le genou, ces deux articulations, la laine et la soie, ça vient des animaux, enfin, etc. Par contre, ils sont beaucoup moins brillants sur des épreuves où il faut simplement faire preuve d'attention, la mémoire des chiffres, répète 4, 7, 2, 9, 3. Malheureusement, on a besoin de ça à l'école. Répète 8, 5, 1, 2, 4, et puis maintenant, tu me le répètes à l'envers. Donc, il faut le garder en mémoire. Ça, ça leur paraît bête. Et toutes ces épreuves bêtes, eh bien, ils sont moins bons. Hein, comme vous voyez, le QI, ça, c'est le QI d'un enfant à haut potentiel qui va bien. Vous voyez que la norme est là. Verbal, non-verbal, mémoire des chiffres, attention visuelle, il est très bon. Celui-là, il ne pose pas de problème. On me l'avait amené juste pour son anxiété, mais il réussit bien à l'école. Par contre, celui-là, vous voyez qu'il peut passer de moments... Alors lui, il cumulait un haut potentiel et une dyspraxie, un déficit d'attention. Il a 19 sur 19 à l'épreuve de similitude. Hein, pour vous dire la vérité, il a réussi cette épreuve. En quoi ça se ressemble éphémère et permanent, et il est capable de dire... pas quel âge il a, j'arrive pas à lire, vous l'avez mieux que moi, 11 ans et quelques, éphémère et permanent, trop facile, c'est deux états du temps. Okay. Par contre, quand il faut recopier, là, vous voyez, geste graphique, il a le niveau d'un enfant qui a 4 ans de moins que lui. Donc, vous comprenez bien qu'il passe par des moments où il s'ennuie à l'école parce que c'est trop facile, et d'autres moments où il n'y arrive pas parce que c'est trop dur. Eh bien, cet enfant-là, tenez-vous bien, on pensait que c'était un enfant qui avait une intelligence moyenne. Et d'ailleurs, on calcule même pas son QI. On ne peut pas calculer un QI. Vous voyez que le QI total, elle ne l'a pas calculé. On n'a pas le droit de calculer un QI total pour un enfant qui a une telle différence. On dit que c'est d'ailleurs qu'il y a plus de 15 points de différence entre le verbal, le non-verbal, la mémoire de travail, qui est la mémoire auditive, l'attention auditive et la vitesse de traitement. S'il y a plus de 15 points de différence, on ne peut pas calculer le QI total. Alors attention, ils ont des réponses à eux aussi. Et heureusement, les psychologues... savent qu'est-ce que c'est qu'un enfant au potentiel. Et si vous avez un doute pour faire un test à votre enfant, je pense qu'il faut s'appuyer sur les associations de parents. Hein. Je pense que je salue ici les associations aussi bien des enfants dys que des enfants hyperactifs que des enfants à haut potentiel. Si vous avez un doute, demandez aux associations quels sont les psychologues habilités. Par exemple, il y a un test qui était Mona Lisa. Et le gamin a 12 ans, passionné d'histoire, il n'a pas su répondre. Heureusement, il est tombé sur une psychologue qui connaissait l'affaire. Et qui lui dit, mais attends, c'est pas possible, toi qui es passionné, tu étais déjà allé en Italie, tu as vu la chapelle Sixtine, etc. Tu peux pas me dire qu'était Mona Lisa ? Et alors, à ce moment-là, il lui répond, bah si, ouais, je sais bien que la Joconde était peinte par Léonard de Vinci entre 1503 et 1506, mais je sais pas qui c'était, Mona Lisa. Et ça, c'est très important, c'est quelque chose que j'explique beaucoup aux enseignants. Combien d'enfants à haut potentiel ? Eh bien, à un moment donné, ils n'ont pas eu la note qu'ils devaient avoir à l'école, parce que c'était implicite pour eux. C'est tellement évident la réponse. Qu'il ne pensait pas que c'était ce que la maîtresse attendait. Et ça, on le voit dans les tests. Hein. Et celle-là aussi, ça, c'est dans une autre épreuve qui est l'épreuve des devinettes, en fait. C'est un endroit où on apprend et dedans, il peut y avoir beaucoup de choses du passé. Je pense que c'est censé être les musées. Mais lui, qu'est-ce qu'il a répondu ? Une maison de retraite. Psychologue qui n'a pas l'habitude des enfants précoces, elle regarde. Non, mais j'ai un musée. Je ne l'ai pas, la maison de retraite, je ne peux pas te le compter bon. Le gars, il est déjà, avec son humour, à un autre niveau de raisonnement. Oui. Et ça, c'est très important à transmettre aux enseignants parce qu'ils nous le font tout le temps. Hein. Comme Jeanne Siofachin qui racontait l'histoire de pourquoi le fer rouille. C'est un des tests. Et le gamin, il ne répond pas. Elle dit, mais comment tu ne sais pas ça alors que tu es passionné de physique, de chimie, tout ça ? Ben oui, justement, je suis incapable d'expliquer le mécanisme de l'oxydation. Et ça, c'est des choses auxquelles on doit faire très attention. C'est-à-dire qu'il ne pensait pas qu'on attendait une réponse aussi facile. Ah oui, un cabinet de psychologue. Un endroit où on apprend, il y a beaucoup de choses du passé. Est-ce que ce n'est pas un cabinet de psychologue ? C'est une autre réponse que j'ai eue. Et celle-là est trop mignonne. La gamine, elle avait remarqué que le psychologue, il comptait deux points. Si quand on disait en quoi ça se ressemble, la colère et la joie, on disait c'est des émotions. Un point si on disait, je ne sais pas, c'est des trucs qu'on ressent. Et zéro point si on disait des âneries. Et là, le psychologue dit en quoi le rêve et la réalité se ressemblent. Et elle lui dit, je pense que vous n'allez pas me mettre deux points pour ça, mais je vais vous le dire quand même. Là, c'est Kirikou, ça. Hein, c'est comme ça. Hein. Et elle lui dit, le rêve et la réalité, c'est pareil, car ma vie est un vrai cauchemar. Hein. Donc à la fois, elle donne une réponse à elle, et en même temps, elle lui passe un message. C'est pour ça que le test psychologique, ce n'est pas uniquement un chiffre. C'est vachement important que la psychologue nous explique comment ça s'est passé, dans quelles conditions, devant quelle épreuve il était, parce qu'il y a des épreuves qui sont chronométrées, devant quelle épreuve il était inquiet ou pas inquiet, etc. Bon, j'en ai plein d'autres comme ça, hein, je ne vais pas toutes vous les faire. Si je vais en faire une dernière, parce qu'elle est trop mignonne, si vous ne l'avez pas entendue. Il y a une épreuve dans compréhension, qui est aussi une question ouverte, pour voir si le gamin est capable de s'adapter. C'est alors après c'est très compliqué. Il y en a qui sont plus compliqués, qui sont pourquoi on vérifie la viande dans les abattoirs, pourquoi il faut tenir une promesse, etc. Donc on voit son niveau d'expression. Mais une des plus simples qu'on pose, c'est qu'est-ce que tu fais quand tu vois une fumée épaisse qui sort chez ton voisin? Vous imaginez ce qu'on a dans le manuel, c'est-à-dire tu appelles les pompiers, tu appelles un adulte, tu je sais pas quoi. Bon bref. Et lui, il dit une fumée épaisse qui sort chez mon voisin. Le gamin, je vous mens pas, il a 9 ans. Très très fin, grand sourire. Je me précipite avec mes merguez. Elle n'a pas la réponse, hein, celle-là, dans le bouquin. Et je crois que la mieux que j'ai entendue aussi, qui est encore plus forte, c'est encore un troisième niveau de raisonnement. Une fumée épaisse qui sort chez mon voisin, qu'est-ce que je fais moi? Ça dépend des voisins. C'est-à-dire qu'en gros, si c'est des voisins avec lesquels on est en difficulté depuis longtemps, je laisse brûler. Alors, on en arrive aux difficultés scolaires. Pourquoi ils sont en échec scolaire? On a vu que ces gamins, ils sont pertinents. On a vu qu'ils sont sensibles. On a vu qu'au niveau verbal, ils comprennent vite. Bon. Le paradoxe de la précocité, c'est ça. Ils sont en échec scolaire parce qu'ils s'ennuient. En général, ils ont tout ça à la fois. Ils s'ennuient, ils n'ont pas de méthode. Ils n'arrivent pas bien à faire des efforts. Les enseignants ne savent pas toujours faire avec eux. Il y a l'effet Pygmalion négatif que je vous décrirai. Et puis, leur stratégie, on sait mieux maintenant comment ils apprennent. Et on va le savoir encore mieux parce que je fais une étude dans mon service qui sera terminée cet été. On les met dans l'IRM. Vous voyez ce que c'est que l'IRM? Mais l'IRM fonctionnel, c'est une super IRM où on fait faire une tâche, on fait penser à quelque chose. Rappelle-moi, pense à tes vacances l'année dernière et on voit s'éclairer en 3D sur l'ordinateur la région du cerveau qui est impliquée. Et on pense pouvoir expliquer comme ça comment ils traitent l'information et peut-être qu'ils la traitent en arborescence, c'est-à-dire beaucoup plus vite. Bon, bref. Donc d'abord, ils s'ennuient, les enfants à haut potentiel. Ça, c'est sûr. Ils s'ennuient tant qu'on n'a pas compris de quoi ils avaient besoin. Je vous laisse cette image que vous connaissez peut-être. Hein, mais on en parlait à table tout à l'heure. C'est Einstein qui disait ça, qui disait tant qu'on n'a pas compris l'intelligence, voilà, c'est pas pareil pour tout le monde. Si on dit à un poisson, grimpe à l'arbre, il ne va pas y arriver. Hein. Et à l'école, souvent, quand même, l'égalité des chances faisait qu'on disait, on donnait la même consigne à tout le monde. Mais l'enfant à haut potentiel, vous pouvez comparer au singe ou à l'oiseau, trop facile pour lui de grimper en haut de l'arbre. Beaucoup plus compliqué pour les autres. Donc on ne peut pas mettre tout le monde devant la même tâche. Hein, ça sera un des gros challenges de l'éducation nationale dans le siècle qui vient, c'est d'arriver à adapter les demandes à chaque gamin. Mais l'enfant précoce, il s'ennuie. Il n'a pas de méthode et il ne sait pas faire l'effort. Ben oui, vous avez vu les résultats tout de suite comme ça qui venaient immédiatement, ben vous n'avez pas eu besoin de vous forcer et de comprendre comment vous avez fait. Le nombre d'enfants précoces qui disent « je le sais parce que c'est évident ». Mais ça marche quand il est en petite classe, ça ne marchera plus quand il sera au collège. Contre-attitude des enseignants, toi je ne t'interroge pas, je sais que tu sais. Ça, c'est pas bon. Hein. Donc il faut dire aux enseignants, ben, si vous savez qui c'est, il faut lui demander des choses plus dures. Ah oui, celle-là, je l'aimais bien. Première année de primaire. Ulysse, il a eu son bac, il est allé voir toutes ses enseignantes. Et la mère, elle dit, vous rappelez d'Ulysse, madame? Elle dit, Ulysse, je l'oublierai jamais. Dans ma classe, c'était l'épice dans le couscous. Les enfants à haut potentiel, c'est une belle métaphore. Hein. Ils ont quelque chose en plus qui peut attirer et qui peut rendre la classe plus fun. Effet Pygmalion négatif. Alors ça, je vous promets que je l'ai vu. Des gamins qui, à un moment donné, renoncent à leurs compétences pour faire genre, comme ils disent, pour ne pas passer pour des intellos. Et puis, il y a pire. Il y en a qui renoncent à leurs compétences parce qu'ils ne veulent pas être différents des autres. Et j'en ai un comme ça. La mère voulait lui faire sauter la première année de primaire parce qu'il savait lire. Et la maîtresse dit, non, il ne lit pas assez bien. Non, elle fait sauter la deuxième année de primaire, le CE1 chez nous. Elle l'amène à l'école, alors elle lui dit, vous voulez faire sauter la deuxième année de primaire à Tom, pourquoi? Je ne sais pas, il lit bien. Oh, je ne sais pas, il ne lit pas très bien. Vas-y, lis Tom. Et Tom, il lit comme ça, devant sa maman et devant sa maîtresse. Le paradoxe de la précocité. La maîtresse, elle boit du petit lait. Elle dit, vous savez, madame, la deuxième année de primaire, c'est l'année où on apprend le plaisir de lire. Et je pense que Tom, il a vraiment besoin de fluidité dans sa lecture. Alors la maman qui était bien, la tête bien sur les épaules, qui dit, Tom, tu lis comme tu lisais hier ou tu t'en prends une? Ok. Manque de méthode, difficulté face à l'effort, contre-attitude des enseignants, effet, pourrait-on dire, pygmalion négatif. La maîtresse, elle dit, mais Tom, tu te fous de moi là, tu lis jamais comme ça à l'école. Il dit, non mais madame, et il le dit en toute honnêteté, mais madame, j'ai remarqué dès le premier jour que vous leur mettez 5 sur 5 quand ils font... Manque de méthode. Et lui, il croyait que lire, c'était annoné. Et combien d'enfants à haut potentiel pensent que c'est ça ? Et c'est ça l'effet Pygmalion négatif, c'est-à-dire s'identifier à ce qu'on pense qu'on attend de nous. Stratégie spécifique, bah oui, ils n'ont pas une démarche analytique, ils ne développent pas point par point, c'est trop long. Prendre un problème et puis le disséquer point par point, c'est trop long. Et ils ont une démarche analogique, ils font des liens tout de suite. Hein, ils utilisent l'intuition et non pas la déduction. Sauf que ça va leur manquer quand ils seront au collège. Mais en primaire, ça marche. Ils trouvent tout de suite la réponse parce que c'est évident pour eux. Ils utilisent la mémoire épisodique. La mémoire épisodique, c'est cette mémoire qui fait que tout de suite, je me rappelle de choses que j'ai déjà vues, ça me fait penser à autre chose. Ils utilisent tous les sens. Les enfants précoces, ils utilisent à la fois la mémoire auditive, visuelle. Vous leur dites qui était Christophe Colomb, ils voient la carte de l'Amérique. Ils entendent la musique du film. Ils voient un film américain. Ils disent, c'est celui qui a découvert l'Amérique, mais il ne sait pas comment il a fait. Mais ces images se sont imposées à lui. Ils utilisent beaucoup l'olfaction aussi. Hein, vous savez, Proust, dans la Madeleine de Proust, qui dit, je trempe la Madeleine et sentir, ça me fait penser à toute mon enfance. Ils sont vachement, je me rends compte quotidiennement avec mes enfants au potentiel, ils sont très sensibles aux odeurs. Ça ne sert à rien pour le théorème de Pythagore, les odeurs. Mais eux, ils utilisent tout ça. Et puis cette fameuse pensée en arborescence, je vais vous décrire. Je me demandais pourquoi ils rataient médecine souvent, les étudiants en médecine précoce, c'était dur. Parce qu'en médecine, il faut apprendre un peu comme un bourrin. Il ne faut pas chercher à comprendre. Il ne faut pas buter sur chaque truc. Alors que lui, quand il ne comprend pas, bon. Et ça, ça s'appelle la mitochondrie, je ne sais pas si vous connaissez. Mitochondrie, ben, quand vous arrivez en médecine, on vous dit, la mitochondrie, c'est du grec mitos, c'est une cellule, avec comme une usine à énergie avec ATP. Celui qui apprend en mode enfant scolaire, celui que les profs aiment bien, il va vous apprendre comme ça. Une mitochondrie, du grec mitos, une cellule, etc. Précoce, il n'entend pas ça. Oula, c'est quoi ce truc ? Et puis ils font des métaphores. Tout de suite, ils associent cette pensée en arborescence dont je vous parlais. Elle est pratique parce qu'elle ramène des solutions, mais elle est compliquée parce qu'elle les fait dériver dans des trucs pas possibles. Ah ouais, ça, on dirait un berceau ce truc, c'est marrant. C'est grave, c'est comme quand j'étais bébé, où j'étais bien dans le ventre de maman, j'aimerais bien retourner parce que là, la nature humaine, j'aime pas trop. Clément, il appelle ça mytho. Ouh, le plus gros mytho que je connais, c'est lui là. Hein, je vois bien le rapport entre mytho et Pinocchio, et là, comme ils disent, mitochondrie. Puis il y a des mensonges d'État, j'aime pas trop ça, ce qui se passe. Une usine, ça pue, la planète est foutue, c'est mort. Ou alors, ah si, je rappelle le film de. Ils aiment bien la musique de leurs parents, Pink Floyd, tout ça, c'est assez incroyable. Hein. Souvent, ils écoutent la musique de leurs parents. Ces enfants à haut potentiel. Une cellule, ils disent, oula, j'aimerais pas être en cellule, hein. Oula là, tout seul, ou alors peut-être avec Michael Scofield, pourquoi pas. ATP, oula là, oui, je voulais être champion de tennis comme Federer, malheureusement, j'y arriverai jamais, etc. Et là où l'autre, le gamin standard, un peu moins intelligent, il a déjà tracé la route, il a déjà trois pages de plus, l'autre, il est encore avec sa mitochondrie, à essayer de partir dans les machins, etc., de revenir, et finalement, eh ben, il ne reste plus rien. C'est ça la pensée en arborescence. Alors on va en faire une force. Moi, je les aide à en faire une force pour des moyens mnémotechniques. Utilise l'arborescence de la pensée pour trouver très bien. Tu te rappelleras très bien que la mitochondrie, ça vient de mytho, mais pars pas sur Pinocchio. Hein, continue sur ton affaire. Hein. Donc, c'est des enfants pour lesquels il faut vite faire des aménagements. Combien d'enfants à haut potentiel me disent ça ? Docteur, ça va passer quand cette affaire ? Quoi ton affaire ? Le haut potentiel ? Jamais. Donc, on ne va pas arrêter le tsunami de ta façon de penser, mais on va t'aider à vivre avec. Alors, comment on fait ? Un, à la maison, la fermeté bienveillante. Fermeté bienveillante. C'est valable pour tous les enfants, c'est encore plus valable pour les hauts potentiels. Il faut être ferme avec eux et bienveillant. Non, tu vas te coucher maintenant. Par contre, je comprends ce que tu voulais dire sur tes rythmes, ton rythme de vie, de sommeil, on en reparlera demain. C'est-à-dire qu'ils ne le font pas exprès, tout ça. Il faut que les enseignants soient pareils. Il faut les écouter, il faut comprendre. Il faut harmoniser les compétences. C'est-à-dire que quand il est trop mauvais sur le graphisme, rappelez-vous le QI comme ça, il faut plutôt le faire monter comme ça. Avec de l'ergothérapie, avec des graphothérapeutes qui font travailler l'écriture, parce que sinon, il va harmoniser. On essaye toujours d'harmoniser nos compétences. Il va les harmoniser vers le bas. Alors qu'en fait, il faut le faire harmoniser vers le haut. Et puis travailler avec l'école. Les solutions à l'école, déscolariser, non. Mais non, il a déjà des mal avec ses copains, c'est compliqué. Donc au contraire, il faut le maintenir à l'école, mais trouver. Alors des classes spécialisées, je ne suis pas très pour, sauf certaines classes. Je vais vous montrer un modèle en Ardèche, à Aubenas. Hein, qui m'en a sauvé un paquet de gamins incroyables. Vous allez voir, c'est un petit film rapide. Mais ils font leur collège là-bas et là, ils retrouvent le plaisir de fonctionner. Voilà le genre d'enfants qu'on reçoit dans notre service, qui viennent quelques jours se ressourcer et voir que finalement, il y a peut-être d'autres solutions. Donc, classe spécialisée. Moi, je pense que l'école idéale, on y reviendra, c'est l'école de son quartier. Hein, ce n'est pas la peine de l'envoyer à l'autre bout du canton pour trouver une classe, parce qu'il a plus ses copains. Mais quand c'est trop difficile, quand il y a des classes qui ont fait la preuve qu'elles étaient capables d'accueillir ces enfants-là, comme les petits de Mireille Dumas tout à l'heure, je pense que c'est important. Accélération scolaire, ben oui. Je vais vous expliquer pourquoi j'aime bien quand ils sautent une année de primaire ou deux années de primaire. D'abord, parce que ça leur apprend à développer leurs compétences de mémoire et d'attention. Et sinon, ils vont être uniquement sur leur facilité. Deuxièmement, oula, j'ai fini mon temps. Ouais, je m'accorde 20 minutes. Vous m'accordez 20 minutes ? Il est où le chef ? Il a rien dit ? Ok, ça. Deuxièmement, alors, un, il faut qu'ils développent leur mémoire de compétences d'attention, leurs compétences de mémoire et d'attention. Si c'est trop facile, ils ne vont pas les développer. Il faut être confronté à ça. Deux, on fabrique son estime de soi en réussissant des choses dures. Et si je ne fais que des choses faciles, je ne fabrique pas mon estime de moi. C'est-à-dire qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et quand ils vont être confrontés à la difficulté, à un moment donné, ils n'y arriveront pas. Donc on leur rend service en accédant. Rappelez-vous les petits tout à l'heure qu'on a vus dans le film. On leur rend service en les mettant dans une situation où ils vont être obligés de se forcer, de découvrir la méthode pour y arriver, et où ils seront pas obligés, ils n'auront pas la facilité de se reposer sur des compétences sans savoir pourquoi. Donc l'accélération scolaire... Pardon ?
Encore une minute.
Non. Il va se faire lyncher, je crois. Et surtout, c'est ça qui est important. En primaire, ajuster l'enseignement. C'est-à-dire que approfondir, enrichir, diversifier. Hein, c'est le conseil qu'on donne aux enseignants et ils le font très bien. Approfondir, c'est creuser le sujet. Toi, je sais que tu connais bien l'Égypte ancienne. Eh bien, pendant qu'on va faire l'Égypte, ce qu'on va te dire, tu le sais déjà, va plutôt au fond de la classe, en bibliothèque, et prépare-nous un exposé. Ça, c'est va nous montrer un peu plus loin, fais-nous un plan d'une ville en Égypte, etc. Enrichissement, c'est faire des liens. Est-ce que tu peux me comparer qu'est-ce qu'il y a de commun entre l'Égypte ancienne et puis les Incas, par exemple ? Et on fait marcher sa créativité. Les enfants qui marchent beaucoup sur la créativité. Je voulais dire un truc sur la créativité. C'est que l'école bride la créativité. Vous savez pourquoi ? Parce que quand un enseignant pose une question à un gamin, il lui pose une question à l'enseignant dont il connaît déjà la réponse. Donc, ce n'est pas une question qui va être ouverte. Et on devrait poser beaucoup plus de questions aux enfants, et en particulier aux enfants à haut potentiel, dont on ne connaît pas forcément la réponse. Style, qu'est-ce qui se passerait si les arbres poussaient horizontalement ? Je ne sais pas. C'est toi qui vas me donner tes réponses. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec un journal, autrement que de le lire ? Donc, ce sera ça l'idée, c'est d'arriver à développer cette créativité-là, alors que l'école, au contraire, va vers une réponse unique, surtout le collège. Ils ont du mal au collège parce que on demande ce mot et cette définition-là. Et puis diversifier. Là, si on peut éteindre, ça va être magnifique ce que je vais montrer. Regardez une façon d'apprendre l'histoire et la géographie en particulier différente. Si on faisait ça, je vous promets que les gamins seraient réconciliés avec cet apprentissage-là. Tant que ce n'est pas éteint, je ne le mets pas. Je m'en fous, j'ai toute la nuit, moi. Mon train, il est demain matin. Regardez. Si on leur apprenait ça, au lieu de leur faire faire une carte de géo. Bon, on va faire un truc, les enfants. Qui peut m'expliquer ce qu'on voit là ? C'est-à-dire qu'on va tout faire sur Google Earth. Alors, les océans, les pays, bien plus fun de les marquer comme ça. Il faut faire un challenge, un quiz. Celui qui m'en met le plus a gagné. Là, le précoce, ça le mobilise. Là, on est où ? On est de l'autre côté de l'Atlantique. Et c'est quoi le pays ? Ben, vous voyez, c'est le Brésil. Celui qui connaît le plus de villes du Brésil me le dit. Là, le précoce, il se remobilise. Qui peut m'expliquer pourquoi c'est allumé ? Ben, c'est les grandes villes qui font de la lumière. OK. Et là, pourquoi il y a un grand trait ? Ah ben, c'est... Ah oui, c'est pour ça le décalage horaire. Ben ouais. Allez, attaquez les villes d'Amérique du Nord. Là, ça devient vraiment, vraiment fun et surtout adapté à ce qu'ils voient au quotidien. Et là, on va faire marcher la créativité. Qu'est-ce qui se passe là ? Vous voyez bien que c'est l'Afrique. Ah, bah, peut-être un vent de sable. Alors, il vient au 12 vent de sable. Vous comprenez pourquoi il fait chaud aux Canaries ? Et pourquoi c'est le printemps éternel ? Et là, à chaque fois, on s'appuie sur quelque chose de joli, de magique, pour faire travailler leur raisonnement et leur déduction. Alors qu'ils ne peuvent plus fonctionner à l'intuition uniquement là. Une fois que vous avez vu Gibraltar comme ça, vous ne l'oublierez pas. C'est beaucoup plus parlant que de le voir sur une carte. Je vous ai mis la Suisse quand même. Vous avez vu que le lac de Neuchâtel, c'est quand même pas la même chose que le lac Léman. Les petits Français mélangent les deux. Vous voyez qu'il y a quand même une différence. Pourquoi on appelle ça la planète glacée ? Une mer fermée. Et là, il ne l'oublie pas, parce que vous vous souvenez qu'il marche par image mentale. Mais celle-là, elle est énorme. Qui peut m'expliquer pourquoi il y a du vert, là ? Ah, ben c'est peut-être... Ah, c'est ça, alors, les alluvions, c'est pour ça que c'est fertile, le Nil. Et ouais, comprenez pourquoi les gens vivent autour du Nil. Voilà, je pense qu'on a les moyens, c'est ça la diversification, hein, on a les moyens de faire reprendre le goût d'apprentissage à ces gamins qui veulent voir des choses, qui veulent être réenchantés. Ah, ça, il faut que je vous la montre quand même. Ce qu'il ne faut pas faire. Là, vous avez. Je vous ai montré avant la géographie en mode précoce intéressante. Là, je vous la montre en mode pas intéressante. Et la prof, elle avait dit à travers de ce schéma, expliquer les dynamiques de la croissance urbaine et les raisons des localisations avec un croquis expliqué par une légende. Le gars, à prendre une carte de géo alors que vous l'avez sur Google Earth, c'est pas bon. Il a dit, je vais quand même faire, comme ils sont plein de gentillesse, il dit, je vais quand même lui faire plaisir. Alors, je vais lui marquer, madame. Voilà, madame, vous avez les pays bleus. Là, vous avez les pays rouges. Là, vous avez les anciens pays rouges devenus bleus. Et plus ça avance, plus il est créatif, le gars. Et là, vous avez les pays atteints de varicelle aiguë. Là, vous avez les pays de 10 habitants où le bleu règne en maître. Et puis, comme elle avait dit, expliqué par une légende et un commentaire, il lui a mis le commentaire, mais en mode précoce, c'est-à-dire je m'intéresse aux autres. L'étendue de mes connaissances sur ce sujet étant quasi nulle, non étant nulle, je me suis dit, quitte à avoir zéro, autant vous amuser un peu. Là, on est dans l'empathie, là. Hein ? Alors, j'espère que vous avez pris du bon temps en corrigeant ma copie et que ça vous décompressera un peu. Pendant cette séance de correction, longue, fastidieuse, exaspérante. Ça ne l'a pas décompressé du tout, du tout, du tout. Et elle lui a mis 0,5 sur 20. Visiblement, tu ne veux pas comprendre les limites nécessaires à ton soi-disant humour. C'est raté, hein ? C'est-à-dire que le gamin, il voulait faire... Bon, il n'a pas appris, d'accord. Mais il voulait essayer de créer un climat, quoi, propice au dialogue, hein ? Et elle a fermé le truc. Et j'ai peur qu'il n'aime plus jamais la géographie, quoi, en tout cas pour cette année. Alors vous allez me dire en même temps, si elle lui avait dit « c'est super, qu'est-ce que t'es drôle, c'est génial », il n'apprendra jamais. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire ça. Il y en a un autre qui a essayé ça. Ça, c'est une des miennes. L'autre, j'ai pris sur Internet, mais ça, c'est un des enfants inspecteurs de Lyon qui me l'avait fait passer. J'ai les calculs dans ma tête, je les ai au bout de la langue, ça ne veut pas sortir. À 9 ans, il faut oser, hein. Comme son père lui avait dit, c'était une bonne note, on ira voir le musée gallo-romain et qu'il avait envie d'aller voir ce musée gallo-romain. Il lui met, alors est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me donner les 4 points de l'exercice, plus encore quelques points, 10 points me suffiront. Parce qu'il avait fait ses calculs ric-rac, il fallait juste 10 points pour avoir la moyenne. Merci d'avance si vous faites ce geste. Il aurait pu s'appliquer pour l'orthographe en même temps, hein. Ça, je pense que ça aurait emporté le... Et là, il est tombé sur une enseignante qui a compris son humour, qui n'en rajoute pas dans « qu'est-ce que t'es génial » parce que ça ne vira à rien, mais qui ne déchire pas la copie, et qui lui montre qu'elle est en phase avec lui et qu'on va pouvoir ouvrir le dialogue, et qui lui répond « j'ai vos 4 points au bout de mon stylo, mais l'encre ne veut pas sortir !» Mais une fois qu'on a compris ce concept-là, qui est « on ne copine pas, je ne suis pas fasciné par toi, mais je suis amusé par toi, mais à un moment donné, j'ai quand même une mission » et qui a une mission qui est de t'apprendre. Donc maintenant, il faut qu'on se parle. Et en se parlant, on arrivera à trouver un moyen de t'aider à trouver la méthode, la bonne méthode. Donc voilà, le haut potentiel à l'école, force ou fragilité, eh bien, s'il n'est pas identifié, ça peut être un handicap, hein, on a compris. Si on n'a pas compris qu'il s'ennuyait, qu'il n'avait pas de méthode, que c'était de l'arrogance, etc., c'est pas bon. Par contre, bien compris, ça devient une force pour tous. Et là, je prends juste, promis, 10 minutes, pas plus. Un tout petit peu plus. Là, je vous ai parlé déjà que des enfants au potentiel tranquille, pur. Maintenant, quand ça s'accompagne de dyslexie, de dyspraxie, dyslexie, difficulté à la lecture, puis à l'orthographe, dyspraxie, maladresse, TDAH, trouble d'attention, dysgraphie, l'ont souvent d'écriture, ça devient très compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on appelle ces enfants dys et TDAH ? Je ne vais pas entrer dans les détails, sinon je vais me faire virer, mais... Tout pour dire simplement que quand on parle d'un enfant 10 ou un enfant TDAH, si on vous dit que votre enfant est dyslexique, dyspraxique ou TDAH, donc trouble, déficit d'attention et hyperactivité, ça veut dire que c'est un enfant intelligent. Parce que dans la définition de la dyslexie ou du TDAH, on élimine les enfants qui ne sont pas intelligents. On n'a pas le droit de porter des critiques de 10 si l'enfant a un retard intellectuel. Donc c'est des enfants intelligents, mais qui ont une région du cerveau qui marche moins bien. À la louche, l'hémisphère gauche pour la dyslexie ou la dysphasie, l'enfant qui ne parle pas bien, l'hémisphère droit pour l'enfant qui est maladroit, qui ne sait pas découper le compas, machin, et le cortex frontal pour l'enfant qui n'arrive pas à fixer son attention, à filtrer les distracteurs, à tenir compte des conséquences de ses actes et à résister à la tentation. Donc c'est des enfants qu'on appelle des enfants à besoins spécifiques, c'est-à-dire qu'ils auraient besoin que l'école s'adapte à eux. Donc vous voyez qu'il y a 1% de dysphasique, 5 à 8% de dyslexique, 5% de dyspraxique, 5% de dyscalculique, et les enfants qui ont un déficit d'attention, TDAH, c'est 5%. Si vous additionnez, ça fait 5, 5, 5, 5. Il y a 25% d'une classe, donc un quart, qui a des besoins spécifiques. Si vous rajoutez les enfants à haut potentiel, hein, ça fait plus de 25%, sauf que c'est souvent croisé. Et ce qui est intéressant dans les études, c'est que c'est lié tout ça. Et qu'il y a plus d'enfants 10 chez les enfants à haut potentiel que dans la population générale. On dit que dans la population générale, il y a 5 à 8% d'enfants dyslexiques qui ont du mal avec la lecture. Eh bien, on va voir que, ça c'est un schéma que j'ai emprunté à Sophie Peuillet, qui est une excellente logopédiste de Lausanne, à côté de Lausanne. Eh bien, vous voyez que c'est une espèce de constellation. Michel Habib, hein, qui a beaucoup travaillé là-dessus, parle de la constellation des troubles 10. Eh bien, les enfants à haut potentiel, ils font partie de ces enfants où c'est croisé. On peut avoir le haut potentiel, la dyslexie, le TDAH, la dysphasie, la dysorthographie, etc. Et les chiffres, bon, le dysphasique, je vais aller rapidement. Hein, dysphasique, c'est une difficulté pour parler. Il est aussi intelligent que les autres, mais il a du mal pour parler. C'est des enfants qui parlent avec leurs yeux. Si vous avez un petit gosse de 3-4 ans qui s'exprime mal, mais il a un regard d'une intensité incroyable, hein, c'est parce qu'il a que les yeux pour parler et il comprend tout, mais il ne peut pas s'exprimer. Et cela, c'est dur parce qu'il passe pour des enfants déficients ou autistes. Le dyslexique, il a des problèmes pour la lecture. Hein, je ne vais pas vous faire la définition, on va aller rapidement. Et normalement, il devrait faire une scolarité normale. On ne fait pas redoubler un enfant 10. Parce qu'on reste 10 toute sa vie, comme on reste précoce toute sa vie. Alors les chiffres, hein, vous voyez, ça, c'est pour ça que c'est important d'en parler aujourd'hui. Hein, dans la population générale, 5 à 8%. Chez les hauts potentiels, il y a 30% d'enfants dyslexiques. Mais parmi ces enfants-là, il y en a plein qui ne sont pas diagnostiqués, ni haut potentiel, ni dyslexie. Hein, parce qu'on ne les a pas repérés dans la population d'enfants à haut potentiel. Je vous montre juste qu'on s'appuie sur des études de Michel Habib à Marseille, hein, qui a vraiment noté l'augmentation, le nombre important de dyslexiques chez les enfants à haut potentiel. Bon, bref, ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous êtes HP et 10, soit on sait que vous êtes dyslexique, on n'a pas repéré que vous êtes HP, et à ce moment-là, on dit il est dyslexique, c'est pour ça qu'il n'y arrive pas, mais on sous-estime ses compétences intellectuelles. Soit on sait qu'il est à haut potentiel, mais on ne sait pas qu'il est dyslexique. On dit, tu as fait un effort. Pas normal, avec les compétences que tu as, tu devrais arriver à lire. Le gamin, il ne peut pas. Il sait B et A, bas, il n'y arrive pas. Et soit on n'a pas identifié les deux. Et c'est ceux-là qui vous disent, je ne comprends pas l'école, je suis moyen. Tant en temps, c'est trop dur et c'est trop facile. Il faut vraiment avoir en tête ça, hein, que cette coexistence du haut potentiel et d'un trouble 10, elle est très fréquente. Bon, ce film-là, tant pis, je ne vous le passe pas. Le TDAH, j'en dis quelques mots. Enfin, je ne vous le passe pas, sauf si vous insistez beaucoup tout à l'heure et que le monsieur, il me permet, mais... Si. Non, mais j'y reviendrai. Je vous dis quelques mots du TDAH. Hein. TDAH, en américain, en anglais, c'est ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Il y a des lieux communs auxquels il faut tordre le cou. La société pense que c'est uniquement une histoire de traitement. Les profs pensent que c'est uniquement quelqu'un qui est pénible. Le petit TDAH, au début, il pense qu'il est super fort, il est plein de vie, il est vivant, il bouge tout le temps, etc. Après, quand on est adulte, on reste TDAH, figurez-vous. Et on est TDAH toute sa vie. Et quand on est adulte, on a... Comment ça s'appelle maintenant ? Il y a une phobie administrative. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'on a du mal à remplir les papiers, à faire des tâches répétitives. Et on a une grosse, grosse tendance, quand on est TDAH, à procrastiner. C'est-à-dire que on repousse toujours ce qui est pénible. C'est-à-dire que vous avez un dossier à remplir, une lettre à faire, en particulier administrative, vous la repoussez le plus longtemps possible. Ça s'appelle la procrastination. Parce que procrastiner, ça veut dire le lendemain. Je remets au lendemain. Bien, quand on est adulte TDAH, donc moi j'ai ce problème-là, eh bien, on ne bouge pas, comme les enfants petits TDAH, qui sont tout le temps en mouvement, mais on procrastine. Juste un truc pour que vous finissiez de vous reconnaître, les TDAH ici. Comme il y en a 5% de la population, il y en a forcément au moins une trentaine ici. D'ailleurs, je les ai repérés. Quand vous êtes TDAH, vous repoussez les tâches pénibles. Vous pourrissez le week-end, ce qu'on appelle l'évitement anxieux, en disant « j'aurais dû faire ce dossier et je ne l'ai pas fait. J'aurais dû remplir ce courrier et je ne l'ai pas rempli. » Et surtout, et je vois que vous achevez de vous reconnaître, vous vous surprenez à vous inventer des tâches à faire que vous n'auriez jamais fait auparavant. Je ne vous mens pas, moi j'avais préparé ces trucs. Le week-end dernier, je me suis mis à désherber chez moi. En hiver. Il faut quand même faut trouver le truc de désherber l'hiver. Hein. Vous inventez des trucs que vous trouverez forcément moins pénibles que la tâche qui vous rebute. Ben, si vous avez ça, vous êtes TDAH. Ben, attention, on est tous un peu comme ça. On n'aime pas trop les tâches administratives. Mais le TDAH, et je parle sous couvert de l'ASPEDA, hein, l'association, le TDAH, il est tout le temps comme ça. Et c'est vraiment très, très compliqué. Alors, au niveau des gamins, c'est des gamins hyperactifs. Ouais, très bonne remarque. Ça va pas automatiquement ensemble. 80% des TDAH, ils ont l'hyperactivité, le déficit d'attention et l'impulsivité. Et 20% des TDAH, ils ont que le déficit d'attention. Et je devrais dire, elles ont que le déficit d'attention. C'est la forme féminine du TDAH qui a le déficit d'attention sans avoir l'hyperactivité. C'est pour ça qu'on ne les voit pas. Elles zappent. En classe, il manque des mots dans le cahier, mais elles ne bougent pas, donc elles ne se sont pas fait repérer. Et c'est dommage pour elles, parce que justement, eh bien, elles n'ont pas consulté à temps le médecin qui va les aider. Et donc, la procrastination. Ah, je suis désolé, j'ai un petit bout de film, mais il ne dure que 2 minutes. Non, celui-là, il est énorme. En 2 minutes, vous comprendrez le TDAH, après, je n'aurai plus besoin d'en parler. Promis. J'ai piqué à l'Instit de Gérard Klein. Vous allez voir, en 2 minutes, une gamine, là, pourtant, c'est une fille qui a... À mon avis, elle est précoce aussi, parce que vous allez voir l'empathie qu'elle a. Je pense qu'elle est précoce et qu'elle a un TDAH, c'est-à-dire qu'elle a un déficit d'attention, elle a l'hyperactivité, l'impulsivité, enfin la totale, quoi, et la précocité. Amélie, c'est à toi. C'est le départ à la retraite d'une de la directrice. Alors, ils font toujours les ânes, hein. Elle a oublié son cadeau à cause de son problème d'attention. Mais comme ils sont pleins d'empathie, ils sont toujours en salopette, hein, les filles TDAH, tout pratique, quoi. Plein d'empathie et plein de créativité. Hein.
Merci.
Ça ne va pas être apprécié à sa juste valeur.
Mais là-bas, c'est pour vous.
Oh non !
Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas vrai, mais tu as tout saccagé.
J'ai pas fait exprès, c'était juste pour vous faire plaisir.
Ce qui me fera plaisir, c'est de ne plus te voir. Tu peux être sûr que je ne te regretterai pas. Jusqu'au bout, elle m'en aura fait voir.
Tu te mets en danger. Ils entraînent le groupe.
Vous pouvez pas surveiller vos gosses un peu de plus, je ne pouvais pas l'éviter.
Dommage que vous m'ayez raté, ça revient débarrasser le plancher.
Bon, allez, viens, je vais te mettre un pansement.
Non, je veux rentrer chez moi.
Dis donc, tu crois pas que t'en as assez fait pour aujourd'hui, hein? Alors tu discutes pas et tu viens avec moi. J'ai appelé tes parents, moi.
Vous avez vu l'effet domino ? Au départ, un problème neurologique frontal, elle oublie son cadeau. Et à partir de là, tout s'est enchaîné. Elle oublie son cadeau, mais comme elle est très gentille, pleine d'empathie, créative, elle va chercher des fleurs et après, ça part en cacahuète. Et le nombre de parents d'enfants TDAH qui me disent ça, ça part sur un rien et après, c'est une catastrophe. Et au bout du compte, qu'est-ce qu'on a ? On a un effondrement de l'estime d'elle-même. Alors c'est vrai que c'est des enfants qui sont pénibles aussi, qui mettent le feu dans la classe. Beaucoup de parents d'enfants TDAH, enfin de maîtresses, me disent, mais il entraîne le groupe. D'ailleurs, je leur demande aux gamins, je leur dis, quand tu vois, honnêtement, Arnaud, quand en classe, la maîtresse parle et puis tu vois une mouche voler, qu'est-ce que tu fais ? Tu regardes la maîtresse ou la mouche ? Il me dit, je regarde la mouche et je préviens les autres. Donc, vous imaginez le travail. Donc, après, ceux qui nous ennuient, c'est ceux qui ont tout. Et j'en ai plein, hein. C'est incroyable, le nombre d'enfants que j'ai qui ont le haut potentiel, la dyslexie et le TDAH. Et là, c'est désespérant. C'est désespérant pour eux. Et on retombe sur ce que je disais au tout début. À quoi ça sert que je me décarcasse ? À bosser ? Puisque je vais perdre des points bêtement parce que j'ai recopié un plus à la place d'un moins, parce que je n'ai pas lu la question jusqu'au bout, parce qu'elle m'a compté une faute par un mot faux, alors que mes mots étaient justes en géographie, mais elle m'a enlevé un point par faute d'orthographe. Donc, ils lâchent l'affaire et ils arrêtent de bosser. Et on m'amène sur un plateau, des parents m'amènent au bord de la crise de nerfs, un gamin, en me disant « c'est insupportable ». Il me le laisse en dépouvante, en me disant « faites-en ce que vous voulez, mais moi, j'en peux plus ». Est-ce que le gamin, il n'est pas motivé? Et en fait, personne n'a pensé à les gratter, que s'il n'était pas motivé, c'est que sa dyslexie, son haut potentiel et son TDAH l'avaient démotivé. Bon, je vous passe, on va arriver à la conclusion pour qu'on puisse discuter. J'avais juste 2-3 bricoles de rien du tout. 3 fois rien. Ah si, ça, j'ai piqué ça. C'est trop joli, ça. J'ai piqué ça à Sophie Poyet aussi. Regardez comme c'est mignon. Lisez ça. Conclusion sur les enfants 10, les enfants TDAH, les enfants au potentiel. Là, c'est sur les enfants 10, mais j'ai piqué, mais comme on m'avait piqué un truc que j'avais écrit. C'est dur à lire ça, hein, comme ça. C'est mieux, c'est mieux à lire comme ça. Les enfants 10, et vous pouvez dire la même chose sur les enfants TDAH, et bien sûr les enfants au potentiel, sont les enfants intelligents qui souffrent de ne pas le montrer ni le prouver. Leur capacité à apprendre est différente, leur volonté d'apprendre est identique. Au départ, leur volonté d'apprendre est identique, mais ils apprennent différemment. Alors pourquoi la métaphore, elle est simple, hein, c'est que c'est facile à lire comme ça, hein, c'est un truc que j'avais écrit, et puis j'ai retrouvé sur Facebook, on l'a repris, très bien valorisé et mis en valeur comme ça. C'est beaucoup plus compliqué à lire comme ça. Et retenons simplement, pour ceux qui ne sont pas dyslexiques, qui ont la chance de ne pas l'être, c'est que les enfants dyslexiques voient le même texte que nous, on voyait tout à l'heure, ils le voient comme ça. C'est-à-dire qu'ils ne le découpent pas de la même façon, ils ne voient pas les lettres avec les mêmes formes. Et vous imaginez à quel point c'est épuisant pour eux de lire, même s'ils sont à haut potentiel. Allez, je termine pour la conclusion avec ça. Il est trop chou, lui. Yann, 10 ans, 5e primaire. Donc, il termine son primaire, il va passer au collège. Et il en a bavé, hein, parce qu'il est précoce et 10 et trouble d'attention. Mais il est tombé sur un super maître, parce que la bascule entre la dernière année de primaire et l'entrée en 6e, c'est très compliqué. Très compliqué parce qu'on change de statut, on nous tutoyait, on nous vouvoie, on est le plus petit dans l'école des grands, alors qu'on était le plus grand dans l'école des petits, bon bref. Et lui, il a réussi son passage. Regardez pourquoi. Parce qu'il est tombé sur un maître hyper, hyper empathique. Il est arrivé le dernier jour de la classe de primaire. Il avait pris, pour chaque gamin, une carte postale. Vous ne filmez pas là, parce qu'il y a le nom du gamin et tout. Il a pris une carte postale. Et il leur avait écrit à chacun un petit mot personnalisé. Et ce petit mot, chaque fois que je le vois, j'ai les larmes aux yeux. Il lui met ça. Yann, tu as été un élève bien différent des autres, tellement sensible que ça n'a pas toujours été facile pour toi ni pour moi. Malgré cela, tu avances et je sais que tu vas réussir, mais ne t'endors pas. Reste toi-même en grandissant. Je compte sur toi pour revenir me voir à l'école, ton maître. C'est adorable. Comment voulez-vous que le gamin qui en a bavé, il ne soit pas reparti? Alors là, c'est les dominos qui remontent les uns après les autres. Et on a réamorcé une pompe qui aurait pu être catastrophique à cause de son tableau multi-10, hein, multi-problèmes et à haut potentiel. Donc, conclusion, bien comprendre comment un enfant à haut potentiel pur ou avec des troubles associés se retrouve en difficulté, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant pour les enfants à haut potentiel, bien sûr, et parce qu'on comprend mieux les mécanismes du traitement de l'information grâce à ça. Ça donne vraiment un regard sur comment fonctionnent les enfants sur le plan affectif et sur le plan cognitif, c'est-à-dire sur le plan intellectuel. Et je pense qu'on a beaucoup appris, et encore beaucoup à apprendre des enfants à haut potentiel. Et je pense que cette réflexion, finalement, quand on parle d'enfants au potentiel, on est à la croisée de l'enfant surdoué, des talents, d'enfants talentueux, mais aussi du risque de handicap. Eh bien, cette réflexion, elle va profiter à tous les enfants, parce qu'il y a une image que j'aime bien, hein, qui a été, je crois, lancée par Todd Lubard, qui est de dire « la marée, elle fait monter tous les bateaux ». Et c'est-à-dire que quand un enfant tire une classe vers le haut, eh bien, c'est tout l'ensemble de la classe qui va y trouver son compte. Voilà, je vous remercie de votre attention.